le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International, et aujourd'hui je vais vous relayer plusieurs appels à l'État français que notre organisation essaye de faire passer. Tout d'abord, il y a une loi, ce projet de loi pour les JO 2024 qui va vers une normalisation des technologies de surveillance intrusive, et avec Amnesty International, c'est un des sujets qui nous inquiète. Le mardi 24 janvier 2023, le Sénat s'apprêtait à examiner en procédure accélérée le projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, et ce texte, ça légaliserait pour la première fois en France l'utilisation d'une surveillance s'appuyant sur des systèmes d'intelligence artificielle. Voté en l'état, ce projet de loi marquerait une première étape dangereuse pour les droits humains, dont le droit à la vie privée. Amnesty International France appelle les sénateurs et les sénatrices à prendre toute la mesure de l'impact d'un tel choix sur le futur de notre société et demande la suppression notamment de l'article 7 qui introduit cette mesure. L'article 7 du projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ça propose en fait d'expérimenter la vidéosurveillance algorithmique avec pour objectif affiché de garantir la sécurité autour d'événements publics importants. Concrètement, c'est des algorithmes qui vont analyser des images issues de caméras fixes ou de drones pour détecter et signaler en temps réel des comportements anormaux ou suspects prédéterminés sans que ce soit précisé ce que ça va recouvrer comme notion. Si la lutte contre la criminalité ou le terrorisme est légitime, selon notre organisation évidemment, elle doit cependant être encadrée et répondre à des critères stricts de nécessité et de proportionnalité. Or, la disposition proposée par l'article 7 ne remplit pas ces conditions. Certes, le gouvernement affirme qu'aucune donnée biométrique ne sera utilisée pour identifier des personnes. Pour autant, les algorithmes évalueront des comportements en analysant des données corporelles et comportementales qui sont des données personnelles qui relèvent, eux, du droit à la vie privée et qui, du coup, doivent être protégées selon notre organisation. Par ailleurs, l'efficacité de ces technologies d'évaluation pour lutter contre la criminalité fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté scientifique. Et c'est aussi pour ça qu'on veut lutter contre ces genres de technologies. Se penser ou se savoir surveiller, ça peut aussi amener des personnes à modifier leur comportement ou s'auto-censurer. L'effet dissuasif d'une telle surveillance de l'espace public comporte donc également un risque d'atteinte au droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Et enfin, si le gouvernement insiste sur le caractère expérimental et exceptionnel de ce projet de loi, la portée du texte dépasse largement les seuls Jeux Olympiques de 2024. Ce sont en effet tous les événements sportifs, festifs et culturels qui seront concernés par le dispositif de surveillance dès l'adoption de la loi jusqu'à juin 2025. L'exception risque donc de devenir la norme dans un contexte de volonté très claire des autorités françaises d'élargir leur pouvoir de surveillance. Les Jeux Olympiques ne doivent pas servir de prétexte pour faciliter l'instauration d'un état d'exception permanent. Amnesty International France appelle donc les parlementaires français à refuser d'ouvrir la voie à une normalisation de pratiques de surveillance préoccupantes pour toutes nos libertés et à prévenir les risques de dérives dangereuses. Cet appel a été fait à la fin du mois de janvier et nous en avons un autre, toujours concernant l'État français qui, décidément, en ce début d'année, empêche de plus en plus de liberté de se concrétiser, et notamment un sujet qui est assez controversé, même au sein d'Amnesty International, il s'agit de la décriminalisation du travail du sexe partout en Europe. Amnesty International est membre de ce qu'on appelle la Coalition pour les droits et l'inclusion des travailleurs et des travailleuses du sexe, qui s'appelle TDS, et nous appelons, avec d'autres organisations signataires, tous les députés européens et européennes à soutenir les droits des travailleurs du sexe et leur inclusion, et notamment du coup à rejeter toute tentative de criminaliser le travail du sexe dans le cadre du rapport sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique 2022-006, qui est actuellement d'ailleurs en cours de négociation au Parlement européen. Nos organisations sont des réseaux de la société civile et des organisations de défense des droits humains de premier plan. Et nous avons des décennies d'expérience et d'expertise en matière de droits humains, de santé, de droits sexuels et reproductifs, sur le VIH également, de la réduction des risques, de droits des personnes LGBTI+, de droits numériques, de lutte contre la traite des êtres humains, de migration, de justice raciale, de justice pénale, etc. Et dans ces nombreux domaines d'expertise, les 15 organisations sont arrivées à la même conclusion. La criminalisation n'est absolument pas une solution. Ce n'est qu'en adoptant une approche basée sur les droits humains, en décriminalisant le travail du sexe et en incluant de manière significative les travailleurs et les travailleuses du sexe et les défenseurs et les défenseuses de leurs droits dans le processus décisionnel que ces travailleurs et travailleuses du sexe pourront être effectivement protégés. La criminalisation des rapports sexuels entre adultes consentants et rémunérés, y compris ceux des travailleurs et travailleuses du sexe, des clients et des tiers, ça continue d'avoir un impact très négatif sur la vie des travailleurs et des travailleuses du sexe et sur leur accès à la santé et à la justice en particulier. Des décennies de données issues de la recherche universitaire, des organisations de la société civile et des travailleurs et des travailleuses du sexe eux-mêmes indiquent clairement que la répression policière et la criminalisation qui en découle nuisent directement à leur santé, à eux, au bien-être d'eux-mêmes et à l'inclusion sociale de ces personnes qui vendent des services sexuels. Malgré tous les appels de certaines organisations à abolir la prostitution afin de sauver les personnes qui vendent des services sexuels, rien ne prouve que la criminalisation des travailleurs et des travailleuses du sexe et de leurs clients ou de tiers, ça a un quelconque impact qui soit positif sur la vie des droits humains des travailleurs du sexe et des travailleuses du sexe. Au contraire, ces données issues de la recherche universitaire, des organisations civiles, etc., ça indique au contraire que cette répression, ça nuit à leur santé. Donc c'est vraiment important d'aller à l'encontre de ce genre de répression et l'abolition, c'est une répression. C'est le cas en particulier pour les travailleurs et les travailleuses du sexe qui sont soumis à de multiples couches de marginalisation, comme notamment les travailleurs et les travailleuses du sexe racisés, ou bien LGBTI, ou alors encore les migrants et les migrantes sans papier. Les membres de cette coalition pour les droits et l'inclusion des travailleurs et des travailleuses du sexe appellent donc les députés européens et européennes à tout d'abord, rejeter toute tentative d'introduire une nouvelle disposition pénale qui associerait tout travail sexuel à la violence contre les femmes. En effet, criminaliser les relations sexuelles entre adultes volontaires et consensuelles, y compris l'échange commercial de services sexuels, est incompatible avec les droits humains à l'autonomie personnelle, à la dignité et à la vie privée. Priver un groupe particulier de femmes de toute leur autonomie, c'est pas uniquement patriarcal, c'est aussi en opposition avec l'objectif de la directive qui vise à renforcer le droit des femmes à donner ou à refuser leur consentement. Une autre mesure, c'est de rejeter toute tentative d'exempter les travailleurs et les travailleuses du sexe de l'article 35. L'article 35 reconnaît les travailleurs et les travailleuses du sexe comme un groupe présentant un risque accru de violence à l'égard des femmes ou de violence domestique. Et lorsqu'elles sont victimes, ayant besoin de services de soutien spécifiques. L'inscription des travailleurs et des travailleuses du sexe en tant que telles dans la directive aura un effet positif significatif sur l'accès des travailleurs et travailleuses du sexe à la justice et à la responsabilisation des autorités. On recommande également d'éviter d'utiliser les termes « femmes dans la prostitution »,« femmes prostituées » ou « prostituées » avec EES dans cette nouvelle directive, puisque le terme a de fortes connotations de criminalité et d'immoralité, et il est perçu par la communauté des travailleurs et des travailleuses du sexe comme un terme avilissant et stigmatisant, ce qui contribue forcément à renforcer l'exclusion et la marginalisation. Le but aussi de cette directive, ce serait de renforcer, reconnaître et amplifier le rôle des communautés et des organisations communautaires qui peuvent jouer un rôle vital dans la prévention de la criminalité si elles sont incluses et consultées de manière significative dans le droit. L'inclusion et la consultation significative des communautés concernées doivent être considérées comme une norme minimale pour la réalisation de l'Union pour l'égalité. Avant de vous quitter, je vous propose de vous parler d'une pétition qui est sur notre site amnestyinternational.fr. Il s'agit d'une pétition concernant la Colombie, puisque la police use de violence sexuelle comme d'une arme de répression lors de manifestations. Attouchement, nudité forcée, injures sexistes, harcèlement, la liste des violences sexuelles et sexistes infligées par la police nationale colombienne aux personnes qui manifestent lors de la grève nationale de 2021 est accablante. Nous avons fait une enquête avec Amnesty International et il se trouve que en Colombie, la police nationale a infligé des violences sexuelles et d'autres formes de violences sexistes au cours de la répression de la grève nationale de 2021. On a fait un rapport qui s'appelle « La police ne me protège pas, violences sexuelles et autres violences basées sur le genre lors de la grève nationale de 2021 », qui expose les violences subies par les femmes et les personnes LGBTI qui sont particulièrement vulnérables lors de ce genre de manifestations. Et ce rapport présente des informations sur 28 situations de violence qui sont basées sur le genre, qui ont eu lieu dans 7 villes du pays, dans le cadre de manifestations entre le 28 avril et le 30 juin 2021. Sur les 28 situations qui sont présentées dans le rapport, la majorité concerne des femmes, 4 situations concernent des hommes, et on recense également la situation d'une femme trans, défenseur des droits humains, et celle de 2 personnes autochtones. Notre enquête, elle montre clairement que la violence fondée sur le genre a été un instrument de répression utilisé par la police nationale pour punir les personnes qui osaient faire entendre leur voix en manifestant. La police ne me protège pas, c'est ainsi que s'appelle ce rapport, puisque les violations ont eu lieu principalement dans 2 types de situations, lorsque la police nationale a dispersé les manifestations et pendant les détentions. Donc c'est en aucun cas la police qui protège. Dans ces 2 contextes, protégés eux-mêmes par leur statut, les membres de la police nationale ont commis des actes allant des injures sexistes à la menace de viol et de violences sexuelles. À travers ces violences, les policiers cherchaient à punir réellement les personnes qui manifestaient parce qu'elles remettaient en cause les normes sociales en matière de genre et parce qu'elles descendaient dans la rue pour revendiquer leurs droits, tout simplement. C'est l'unité spéciale anti-émeute, ESMAD, qui serait responsable de la plupart des violations. En juin 2021, on comptait plus de 491 femmes victimes de violences policières, 28 victimes de violences sexuelles et 5 cas de violences basées sur le genre contre les personnes LGBTI qui manifestaient. Le rôle des femmes dans les manifestations est pourtant majeur. Elles étaient soutien, porte-parole, responsable de terrain, médiatrice avec les autorités policières. Elles ont mis en place des cuisines communautaires pour assurer que les personnes qui manifestaient soient nourries et agissaient comme une ligne de front pour protéger leur intégrité physique. En identifiant les formes de violence contre les manifestantes qui ont entraîné de graves traumatismes oculaires et des décès, les femmes de ces lignes de front ont joué un rôle crucial dans la protection et la défense des manifestantes. Malheureusement, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles elles ont été victimes de stigmatisation, de violence et de menaces. Alors, on peut quand même rappeler qu'est-ce qui a déclenché les manifestations en Colombie à partir du 28 avril 2021, parce que c'est quand même des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue pour de nombreuses villes en Colombie pour prendre part à ces manifestations, majoritairement encore une fois pacifiques, hein, dans le contexte du mouvement de grève nationale qui a duré plusieurs mois. Et c'est la proposition d'une réforme fiscale promue par le gouvernement du président de l'époque, Ivan Duque, qui a mis le feu aux poudres à ce moment-là. La police nationale est intervenue et a fait usage de la force de façon totalement excessive et disproportionnée pour réprimer les manifestations et étouffer la contestation. Des milliers de personnes ont donc été gravement blessées et des dizaines sont mortes suite à la répression des forces de sécurité. Les personnes ont été notamment ciblées, comme je le disais tout à l'heure, pour leur origine ou pour leur genre. C'est ce que montre notre rapport qui révèle que les violences à l'égard des femmes et des personnes LGBTI ont été inextricablement liées à d'autres facteurs de discrimination comme l'origine ethnique, l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Les témoignages de femmes trans et des communautés indigènes et afro-colombiennes montrent que leur identité a été une cause supplémentaire de répression en plus des manifestations et qui exacerbe le risque du coup de subir des violences. Et en plus, des femmes et des personnes LGBTI journalistes ou défenseurs des droits humains ont subi des agressions marquées par le sexisme, l'homophobie et d'autres formes de haine ainsi que la stigmatisation. Il ne fait pas bon être journaliste lors de ce genre de manifestation. Alors que des plaintes ont été déposées par les personnes ayant subi des violences fondées sur le genre, le système judiciaire n'a jusqu'ici évidemment pas fourni de réponse adéquate. En tout cas, pas satisfaisante pour notre organisation. Plusieurs personnes qui sont victimes de violences ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas porter plainte parce qu'elles avaient tout simplement pas confiance dans les instances et parce qu'elles avaient peur des représailles également. Le président colombien Gustavo Petro, en tant que chef suprême de la police nationale, doit prendre un décret condamnant toutes les formes de violences sexuelles et les violences fondées sur le genre. C'est en tout cas ce que demande notre organisation Amnesty International et c'est ce que vous pouvez demander en pétition. Chacune des plaintes concernant la grève nationale de 2021 doit faire l'objet d'une enquête et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes. Les autorités colombiennes doivent également remédier aux causes profondes de cette violence et travailler avec les femmes et avec les personnes LGBTI pour élaborer et adopter des mesures efficaces qui garantissent une vie sans discrimination institutionnelle et sans violence basée sur le genre. Je vous rappelle également donc que vous pouvez signer cette pétition sur le site amnestyinternational.fr, mais vous pouvez aussi la signer en direct, en personne, lors du loto d'Amnesty International qui aura lieu le 12 février à 15h à la salle Kiasma. Si vous venez en tram, vous pouvez vous arrêter à l'arrêt Clerval et vous pouvez venir tenter de gagner, en plus de signer des pétitions évidemment, un écran plasma, une tablette, 3 jambons entiers et plein d'autres lots. Les 3 cartons sont à 6€ et les 10 cartons sont à 10€. N'hésitez pas à venir nous voir et discuter avec nous, échanger un petit peu et surtout signer plein de pétitions du même genre ainsi que nos appels à l'État français si vous voulez essayer de faire changer des choses à propos des lois de projets de surveillance lors des JO 2024 ou de plein d'autres lois que le gouvernement français met en place, notamment de discrimination contre les réfugiés, pour la prostitution au niveau européen, mais encore bien d'autres sur énormément de libertés différentes qu'on est en train de perdre. Merci à vous pour votre écoute et à la semaine prochaine avec tout plein d'autres pétitions à signer.